Allô tout le monde, merci d'être là pour le premier épisode à vie de mon balado Histoire sordide. Je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Pierre et je suis une passionnée de true crime, dans le sens que j'en consomme beaucoup trop, que ce soit sous forme de balado bien entendu, ou encore de documentaires, de livres, de films. C'est une véritable fascination qui me suit depuis toujours. Je sais que ça peut sembler morbide un peu comme passion, mais la réalité c'est que c'est normal qu'on soit fasciné par le crime. C'est tellement incompréhensible pour la grande majorité des gens. Et je pense que ceux qui sont le plus accros aux histoires de true crime, comme moi, espèrent surtout comprendre et en apprendre plus sur le monde du crime. Comme j'étais un peu trop poche en maths et en sciences pour devenir criminologue, je me suis dit que de me partir un balado sur le true crime, ben, c'était pas mal la meilleure solution, non? Je suis aussi passionnée de bien d'autres choses, pas juste les trucs sordides, je vous rassure. Mon balado s'appelle « Histoire sordide, c'est pas pour rien ». Je vous lis quelques bouts de la définition de sordide selon le Petit Larousse. Ça dit « qui est misérable, sale, qui manifeste une grande bassesse de caractère, qui est marqué par l'âpreté au gain et la mesquinerie ». Personnellement, je trouve que c'est carrément la définition d'un crime. Je trouve que c'est juste parfait. Dans mon projet fou de balado, j'ai la chance d'être accompagnée de mon grand ami Eric.
Hello!
Qui est tout aussi passionné que moi et qui va m'accompagner dans les histoires que je vais vous raconter. Histoire sordide, ça parle de choses qui se sont passées ici, au Québec. J'avais envie que vous puissiez en apprendre plus sur des cas d'ici. Pour en parler, je me base sur les articles qui sont disponibles et la recherche qui a déjà été faite, donc en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'épisode, vous pourrez accéder à toutes les sources qui m'ont permis de le bâtir. Ok, je me lance. Pour mon premier épisode, le sujet s'est vraiment imposé à moi. Je voulais parler d'un cas qui s'est déroulé dans la ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je vis encore aujourd'hui, la ville de Longueuil. Aujourd'hui, on parle du meurtre de Jannick Dalcourt. Je voulais parler de Jannick pour plusieurs raisons, mais je vous avoue que son histoire m'avait particulièrement bouleversée en 2014 quand c'est arrivé. D'abord parce que son histoire est vraiment sordide, mais aussi parce que j'avais pratiquement le même âge qu'elle en 2014 quand elle a été tuée puis que son meurtre a eu lieu à quelques centaines de mètres, littéralement, de la maison où j'ai grandi. Encore aujourd'hui, je passe à côté de l'endroit où c'est arrivé plusieurs fois par semaine, que ce soit en vélo, quand je fais mon jogging ou juste quand je vais chez ma mère qui habite encore dans ma maison d'enfance. Voici son histoire. En 2014, Jannick avait 23 ans. Dans plusieurs articles que j'ai lus, ses amis et sa famille disent que c'était un vrai petit rayon de soleil. D'ailleurs, puis selon moi, ça en dit beaucoup sur la personne qu'elle était, elle avait décidé de revenir vivre chez sa maman pour s'occuper d'elle puisqu'elle avait des ennuis de santé. Puis un autre fait que j'ai trouvé trop cocasse, Eric, tu vas aimer ça, c'est que sa mère la surnommait Poutine. À quel point c'est la chose la plus cute!
Oh, mais c'est vrai que c'est cute comme surnom. J'aime ça, c'est sympathique.
Le 21 octobre 2014, aux alentours de 21h30-21h45, Jannick était en chemin à Longueuil pour tourner à la maison qu'elle habitait avec sa mère après avoir terminé son quart de travail dans un centre d'appel situé dans le Vieux-Longueuil. Sur son chemin, elle devait passer entre autres sur un tronçon d'une piste cyclable entre les rues de Normandie et Chemin Chambly. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Longueuil, il faut savoir que c'est une très grande ville, la cinquième plus grande ville du Québec, selon les données les plus récentes publiées par l'Institut de la Statistique Québec. Mais il y a plusieurs quartiers puis ils ont tous leurs caractéristiques. Dans le cas du quartier du Vieux-Longueuil, dans lequel Jannick se trouvait au moment du drame, c'est un quartier assez bien nanti et plutôt tranquille en général. C'est très très rare que des événements aussi dramatiques surgissent dans ce quartier-là. Je peux en témoigner étant donné que j'ai grandi dans ce quartier-là. Selon un reportage qui a été réalisé par l'équipe de l'émission JE et diffusé en 2015, un appel au 911 a été placé à 21h50 dans lequel on rapportait qu'une jeune fille avait été trouvée sur la piste cyclable. Au moment de l'arrivée des premiers répondants, elle était encore vivante. Son décès a été constaté à l'hôpital. On n'a pas beaucoup de détails de tous les coups et blessures qu'elle a reçus, puis de toute façon, c'est vraiment pas nécessaire de connaître tous ces détails-là pour comprendre l'horreur de toute la chose, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été sauvagement agressée. On sait qu'elle a été battue à coups de barres de métal, entre autres à la tête. Il y a une vidéo qui a circulé un peu partout à la télévision à l'époque, dans laquelle on voit des ambulanciers sur place, sur la piste cyclable, tenter de la réanimer. On voit seulement ses pieds être allongés sur une civière et des ambulanciers sont en train d'intervenir pour essayer de la sauver. Pour avoir vu la vidéo, je peux vous confirmer que c'est vraiment perturbant. Eric, je t'ai envoyé le lien vers la vidéo, l'as-tu regardé?
En fait, je l'avais même pas vu à l'époque, mais quand on s'est préparé pour l'épisode, j'ai regardé toute la vidéo, puis c'est vraiment perturbant, là. C'est quand même très graphique quand tu y penses, là, même si on voit ça de loin, on sait ce qui se passe, là.
D'ailleurs, parenthèse ici, la mère de Jannick, Monique Dalcourt, avait expliqué à l'émission de Denis Lévesque en 2019 que c'est cette vidéo-là qui l'a hantée encore le plus aujourd'hui. Après l'avoir vue, elle a subi un choc post-traumatique important. Elle se bat encore aujourd'hui d'ailleurs contre l'IVAC, un régime d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, pour qu'il la déclare officiellement comme une victime. Je ne veux pas rentrer dans les détails de toute cette bataille juridique-là ici, surtout qu'elle n'est pas terminée encore, mais en gros, l'IVAC a déterminé que comme Monique n'était pas sur place au moment où c'est arrivé, elle n'est pas une victime du crime qui a été commis. Mais Monique, de son côté, dit que, évidemment, en raison, entre autres, de cette vidéo-là, elle a encore besoin de soutien psychologique important. Mais ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut ressentir en voyant la vidéo.
Malheureusement, ça prouve qu'on a beaucoup de chemin à faire dans la façon qu'on traite la famille des victimes.
Je suis d'accord. Par respect pour les proches de Jannick, je vais pas mettre le lien vers la vidéo dans les sources de l'épisode. De toute façon, pour ceux qui veulent la voir, ça se trouve en ligne, mais moi j'ai décidé qu'on la rendrait pas accessible ici. En ce qui a trait à l'endroit où Jannick a été découverte, pour être passée là vraiment souvent, comme je vous le mentionnais, il faut savoir que c'est un tronçon de la piste cyclable qui se trouve entre un cimetière et le terrain de soccer d'une école primaire. C'est un endroit qui est très fréquenté le jour, puisque des terrains de baseball, de soccer, de volleyball juste à côté, puis aussi avec l'école. Mais j'avoue que le soir, ça devient vraiment tranquille. Au moment de l'événement, il y avait des gros arbres et des arbustes qui surplombaient la piste cyclable, ce qui fait que dès que le soleil se couchait, ça devenait vraiment sombre. De ce que je comprends, selon une entrevue que Monique Dalcourt a donnée à TVA Nouvelle en 2019, c'est pas le soir du drame qu'elle a appris ce qui s'était passé. Toujours dans la même entrevue, Monique explique que le lendemain du meurtre, elle accompagnait sa mère, la grand-mère de Jannick, à l'hôpital. Quand elle est arrivée sur place, à l'hôpital, ils ont pris Monique à part et ils lui ont annoncé la nouvelle comme quoi Jannick était décédée. Évidemment, je pense qu'on peut tous imaginer ici comment ça a dû se passer pour Monique et ses proches. À partir de là, beaucoup de choses faites par la police de Longueuil dans l'enquête ont été durement critiquées. Dans un article du Courrier du Sud publié le 15 octobre 2019, le chroniqueur judiciaire bien connu Claude Poirier dit même, et je cite, « Je ne dis pas que dans ce dossier, des policiers ont été malhonnêtes, mais il y a peut-être eu de l'incompétence. » Fin de la citation. Entre autres parce que seulement 2 jours après qu'on ait découvert Jannick, la scène de crime avait été ouverte au public. Les gens pouvaient aller se recueillir et n'importe quel curieux pouvait se rendre sur place. Mais non seulement ça, des employés de la ville de Longueuil étaient allés élaguer les arbres qui se trouvent sur la piste cyclable à cet endroit-là et étaient allés installer des lumières. La raison est bonne, on s'entend. Ils voulaient que l'endroit soit plus sécuritaire. Mais écoute bien ça, Rick. La police est retournée le jour même pour refermer la scène de crime. Ah. Évidemment, la scène était désormais vraiment contaminée. Ce qui pouvait être amassé comme preuve ou autre à partir de ce moment-là était simplement inutilisable parce que des éléments amassés sur une scène de crime contaminée peuvent juste pas tenir la route dans une enquête, puis encore moins dans le processus judiciaire qui peut s'en suivre. Le service de police de la ville de Longueuil a été très critiqué pour cette décision-là. Puis avec raison. La prochaine chose importante qui se produit dans ce dossier, c'est le 25 octobre 2014, donc 4 jours après l'événement. C'est un samedi, la famille reçoit un appel important. La police a arrêté un suspect, un jeune homme de 26 ans, et ils sont conviés au palais de justice de Longueuil le lundi suivant, soit le 27 octobre, pour le dépôt des accusations. Quand on entend ça, on se dit « Ben, c'est réglé! Une semaine plus tard, puis ils accusent déjà quelqu'un, non? »
Ben oui, j'avoue, mais c'est quand même rapide, hein?
Mais écoute bien ça. Le lundi matin, tel que demandé Monique, la mère de Jannick, le beau-père de Jannick, Michel Lafrance, le père et le frère de Jannick, John et Nick Gandolfo, se rendent au palais de justice. Faut savoir aussi que John et Nick arrivaient de New York où ils habitaient à ce moment-là, juste pour la comparution. Ils sont assis en première rangée et ils attendent de voir le visage de celui qui va être accusé d'avoir tué leur fille, leur belle-fille, leur sœur. Mais un prévenu se présente qui n'est pas le suspect. Puis un autre. Puis un autre. Pour finalement attendre une journée complète avant de se faire dire que finalement, le suspect qu'ils avaient arrêté a été relâché.
La journée même de la comparution?
Ouf. Évidemment, on peut imaginer le désarroi et la frustration de la famille qui attendait de voir le présumé assassin de Jannick pour finalement apprendre que la police n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir porter des accusations.
Ils ont mis la charrue avant les bœufs, c'est ça que t'es en train de me dire.
C'est un peu ça que je te dis, ouais. Les médias qui ont couvert l'affaire ont souligné que c'était hautement inhabituel de les convier, ainsi que les familles, à une comparution pour finalement relâcher un suspect. Dans un article de TVA Nouvelle qui date de 2015, un ancien policier de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, dit, et je cite, « Normalement, avant de procéder à l'arrestation d'un suspect pour lequel on a ramassé de la preuve, on parle avec un procureur de la Couronne. C'est lui qui va se déclarer à l'aise de nous autoriser à procéder à l'arrestation. » Fin de la citation. Selon lui, Claude Poirier et d'autres aussi qui ont critiqué le SPAL dans cette affaire-là, c'est une autre situation qui démontre leur manque d'expérience en matière de dossier de meurtre. Il aurait voulu aller trop vite, peut-être. D'ailleurs, plusieurs soulèvent que ce genre de dossier devrait être automatiquement confié à la Sûreté du Québec qui a l'expérience nécessaire pour boucler des dossiers aussi majeurs. De ce que j'ai compris dans ma recherche, il y a comme une genre de guerre entre les polices municipales et la SQ. Les polices municipales, comme le service de police de l'agglomération de Longueuil, voulant garder leur enquête le plus longtemps possible dans le but de les régler. Pourtant, elles n'ont simplement pas les budgets et les ressources nécessaires. Alors que la Sûreté du Québec, oui. Il faut imaginer la journée que la famille a vécue au palais de justice, attendre des accusations qui finalement n'arriveraient pas. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Mais il y a d'autres choses aussi qui ne se déroulent pas comme prévu pendant l'enquête. Dans un article publié par la presse en 2015, on apprend que la police de Longueuil avait tenté de soutirer les informations aux suspects qu'ils avaient placés en cellule au poste de police avec une opération d'agent double. Et on parle toujours du même suspect, là, l'homme de 26 ans qui a été arrêté et finalement relâché. Il semble, selon ce que j'ai lu un peu là-dessus, que ce soit assez commun d'essayer ce stratagème-là lorsqu'une arrestation est faite. On met un policier déguisé en suspect, lui aussi dans la cellule, et on tente de faire parler le vrai suspect. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, ça aurait été un peu bâclé, fait un peu trop vite encore une fois, et le suspect aurait décidé de juste plus coopérer avec la police quand il a découvert ce qu'il essayait de faire. Est-ce qu'il aurait parlé autrement? On le saura jamais, évidemment. Mais ce qui ressort, c'est que normalement, c'est le genre d'opération dans laquelle tu dois prendre ton temps pour que ce soit bien fait, puis que c'est peut-être ce qui fait un peu défaut ici. Puisque le suspect, encore à ce jour, n'a jamais été formellement arrêté, son nom n'a jamais été dévoilé. On sait qu'il avait 26 ans au moment des faits, il aurait donc environ 32 ans aujourd'hui, mais on ne sait même pas si Jannick le connaissait. Toujours selon les informations dévoilées par les médias, on sait aussi qu'il vivait à Longueuil au moment des événements. Ce qu'on sait, c'est qu'il est passé de suspect à témoin important après avoir été relâché quelques jours après le meurtre de Jannick. Par contre, dans le reportage de JE, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, on apprit que le suspect avait été mis sur le radar de la police par lui-même. Sais-tu comment?
Non.
En fait, c'est lui qui aurait appelé le 911 après avoir battu Jannick.
Non!
Je sais! Selon les sources de JE, le suspect aurait attaqué Jannick, appelé le 911 pour dire qu'il venait de trouver quelqu'un qui avait été battu sur la piste cyclable et serait allé se débarrasser de l'arme du crime, pour ensuite revenir sur les lieux du crime pour accueillir la police. Incroyable.
Hein?
Dans mes recherches, j'ai jamais réussi à savoir si finalement la police avait retrouvé l'arme du crime, mais de ce que je comprends, il semblerait que non. On a aussi appris dans ce reportage-là que tout aurait commencé avec une agression sexuelle. En ce qui concerne l'agression sexuelle, il y a juste la presse qui en parle en 2014, l'article dans lequel il explique que le suspect aurait suivi sa victime un certain temps avant de passer à l'acte. La presse dit qu'ils le savent de sources sûres, mais ce sont les seuls qui parlent clairement du fait que Jannick aurait été agressé sexuellement. Ce qui ferait aussi du sens aux yeux de bien des médias, sachant que quand le suspect a été relâché au palais de justice, la police avait dit à ce moment-là qu'ils attendaient des résultats d'analyse qui devaient les éclairer sur deux aspects, dont une éventuelle agression sexuelle. J'ai aussi lu que lorsqu'on attend des résultats d'analyse, normalement ça indique effectivement qu'ils pensent qu'une agression sexuelle serait possible. Cependant, la police a refusé de parler de cet aspect-là et de confirmer ou infirmer l'information. Dans le même reportage, on apprend que le même suspect, qui est maintenant techniquement un témoin, était couvert du sang de Jannick quand les policiers sont arrivés sur place. Il se serait défendu en disant que c'était parce qu'il avait tenté de lui porter secours. Et honnêtement, ça fait du sens, jusqu'à un certain point. Évidemment, j'ai pas vu de photo de lui avec le sang pour voir si la quantité de sang et la façon que c'était répandu sur lui, ça fait du sens pour quelqu'un qui lui aurait porté secours. Mais si la police a tout de suite réalisé que ça faisait aucun sens, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a focusé sur cet individu-là dès le début. Mais le reportage nous apprend aussi que l'homme aurait voulu mettre le blâme sur deux autres hommes qu'il aurait vus partir après avoir frappé la victime. Ici, j'ai un million de questions. À la limite, qu'il parle d'un autre homme qui aurait comme surpris et qui se serait sauvé, je me dis « ok, c'est possible ». Mais deux, je trouve que ça fait juste... Ça a juste l'air d'un gars qui veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre que lui, tu trouves pas?
Ouais, mais en même temps, c'est pourquoi il aurait appelé le 911? C'était-tu comme un, dans le fond, un cri de détresse? On le sait-tu?
Non, malheureusement, on n'en sait pas plus. Je serais vraiment curieuse d'entendre ce qu'il avait à dire quand ils sont arrivés sur place, mais malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est d'ailleurs ce qui est un peu dommage dans ce dossier-là. On n'a au final pas beaucoup d'informations.
En même temps, comme tu dis, si c'est vraiment lui qui a appelé le 911, c'est logique qu'il ait voulu porter secours puis qu'il ait tenté de la réanimer ou quelque chose, mais en tout cas, sans être un expert en sciences médico-légales, je pense que c'est facile de savoir que quelqu'un qui bat à bord de coups de fer et quelqu'un qui essaie de te réanimer, ça laisse pas tout à fait les mêmes traces.
C'est sûr que si ce que le gars rapportait sonnait faux, ou que son histoire a changé à quelques reprises, ou si sa version des faits est un peu chambranlante, ou si c'était simplement trop tiré par les cheveux, ça sonne l'alarme immédiatement aux yeux des policiers. Un autre fait intéressant et super important, je trouve, qu'on apprend dans le reportage de JE, ça dit que le suspect serait un homme qui se trouve à être sous curatelle. Selon le réseau juridique du Québec, la curatelle n'est établie que dans les cas où l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, notamment dans les cas où la personne est atteinte d'une déficience mentale profonde. Donc, si on résume un peu, le suspect que les policiers ont dans leur mire depuis le début aurait vraisemblablement appelé le 911 le soir même à l'endroit où Jannick a été tuée et découverte. Et il aurait expliqué que c'était d'autres personnes que lui qui auraient été responsables du crime. Et il serait sous curatelle. Mais on connaît pas la raison étant donné qu'on peut pas savoir c'est qui. Dans tout ce que j'ai lu et vu, c'est seulement dans le reportage de JE qu'on a toutes ces informations-là. Donc, évidemment, on n'en sait pas plus pour le moment. Selon un article du Journal de Montréal publié en 2015, une femme qui faisait son jogging le jour même où Jannick a été tuée, au même endroit, avait aperçu un homme étrange qui lui avait fait peur. Quand j'ai su ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser au fait qu'en tant que femme, on remarque ce genre de choses-là. Combien de fois quand j'étais en train de courir ou de prendre une marche ou quoi que ce soit, j'ai senti un regard ou une présence d'un homme qui me mettait mal à l'aise. C'est comme incroyable comme sensation. J'ai l'impression que tellement de fois, sans même qu'on s'en rende compte, il y a des personnes ou des situations qui nous mettent mal à l'aise et qui nous rendent inconfortables sans même qu'on comprenne exactement pourquoi. Mais pour revenir à cette femme-là, il semble qu'elle ait averti la police dès que le meurtre de Jannick a été médiatisé. Pourtant, elle a mentionné dans l'article que son appel n'a pas vraiment été pris au sérieux. Il semble que personne ne l'aurait rappelé avant un mois après l'événement, ce qui est quand même non négligeable. C'est certain que dans un cas comme ça, normalement on essaie d'avoir le plus d'informations possible, surtout si la personne peut potentiellement identifier un suspect. Normalement on essaie de faire ça le plus rapidement possible aussi, juste pour que les informations soient encore fraîches dans la mémoire du témoin. Plus la police attend avant de parler à des gens qui peuvent avoir des informations importantes, moins les informations sont claires et moins on a de chances de se rappeler de détails. Aussi, une chose que j'ai remarquée, c'est que j'ai jamais rien lu nulle part sur un potentiel portrait robot que cette femme-là aurait pu faire, et aucun portrait robot n'a jamais été diffusé dans l'affaire de Jannick Dalcourt. Donc peut-être aussi que la police a pu conclure rapidement que les deux incidents avaient absolument rien à voir, j'en sais rien. Mais la femme en question, qui n'a pas voulu être nommée par crainte pour sa sécurité, on la comprend, mentionne dans l'article qu'elle aurait été appelée à identifier un suspect. L'histoire ne dit pas si le suspect qu'elle a identifié est celui qui a été arrêté en 2014. Encore là, beaucoup de questions, peu de réponses. En février 2015, il y a une autre drôle de tournure dans l'affaire quand on apprend que le service de police de l'agglomération de Longueuil avait reçu, la veille du meurtre de Jannick, donc le 20 octobre 2014, un témoignage d'une femme, Carole Thomas, comme quoi elle aurait été agressée et violée à quelques rues d'où on a découvert le corps de Jannick. Selon Carole Thomas, le SPAL ne l'aurait pas rappelé après l'affaire de Jannick pour dresser un portrait robot ni rien, ce qui encore une fois a été durement critiqué par pas mal tout le monde. Évidemment, personne ne comprenait comment la police de Longueuil avait pu ignorer ça, et le SPAL a été vraiment fusillé dans les médias. Madame Thomas, dans un reportage de Radio-Canada d'ailleurs, ne mange pas ses mots quand elle parle des réactions et de la façon de travailler de la police. Et on peut la comprendre. Mais revirement de situation. En juin 2015, quelques mois après la diffusion du reportage, Madame Thomas est accusée d'avoir menti pour soutirer de l'argent à l'IVAC. Elle est accusée de méfaits publics, fabrication et utilisation de faux documents et fraude de plus de 5 000 $ à l'endroit de l'IVAC. Évidemment, à ce moment-là, certains se demandaient si la police de Longueuil n'avait pas réagi pour pas perdre la face, si on veut, étant donné que Carole Thomas venait de faire une sortie dans les médias contre eux. Mais finalement, elle a carrément plaidé coupable en 2016. Elle a même présenté ses excuses à la Fraternité des policiers de Longueuil, qui a décidé par la suite d'abandonner sa poursuite contre elle. Au final, c'était juste une histoire inventée de toutes pièces. Quand j'ai appris ça, j'en venais pas de savoir qu'une dame avait inventé cette histoire-là exactement une journée avant le meurtre de Jannick. Je veux dire, c'est quoi les chances?
Ah mon Dieu, en effet, c'est... Puis, c'est quoi les chances que ça pouvait venir interférer avec une véritable enquête, là? Tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas crier au loup.
Ah, je sais... Et la fausse histoire de Carole Thomas est vraiment déplorable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une perte de temps pour le corps policier, évidemment, tu sais, une perte de temps terrible. Mais aussi parce que je trouve que des histoires comme ça, même si elles arrivent vraiment très peu souvent, ça met un doute ensuite sur toutes les histoires qui viennent après. Déjà que c'est difficile de dénoncer quand on est une victime d'une agression sexuelle, si en plus des femmes inventent des histoires pour retirer de l'argent d'un régime destiné aux véritables victimes, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom pour vrai. Il y a un autre événement qui survient quelques années plus tard, en septembre 2016. Un homme qui s'appelle Yves Roy agresse une femme sur le Mont Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est une ville dans l'agglomération de Longueuil et le Mont Saint-Bruno est à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où Jannick s'est fait attaquer environ. Selon un article de la presse canadienne, Yves Roy aurait agressé une femme dans la cinquantaine, il l'aurait plaquée au sol, il l'aurait frappée à plusieurs reprises pour ensuite tenter de l'étrangler. Mais heureusement, la femme a réussi à se débattre, bravo à elle, puis l'homme se serait sauvé. Ça aurait pris quelques jours seulement avant que la police l'arrête et l'accuse de tentative de meurtre, séquestration et vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction pour la tentative d'étranglement. La raison pour laquelle je vous parle d'Yves Roy et de cette histoire-là, c'est parce que le SPA aurait suspecté qu'il soit impliqué dans d'autres cas, surtout sachant qu'il y avait des antécédents. Donc évidemment, le public et les médias n'ont pas pu s'empêcher de penser à Jannick. C'est sûr que le fait que la dame de Saint-Bruno ait été attaquée dans un parc, un peu comme Jannick, faisait en sorte que le lien semblait facile à faire. Malheureusement, c'était il y a 4 ans déjà et rien s'est développé depuis. Donc pour le moment, il n'y a rien qui porte à croire que les deux histoires seraient liées. Le 15 octobre 2015, donc presque exactement un an après le meurtre de Jannick, TVA Nouvelle avait appris que le dossier avait été à nouveau soumis au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans l'article, on parle du fait que la police de Longueuil voulait encore faire arrêter le même suspect qu'un an auparavant, l'homme de 26 ans. Mais c'est le seul endroit où on mentionne ça. D'autres médias ont effectivement confirmé que le dossier de Jannick avait été resoumis, mais TVA Nouvelle sont les seuls à préciser que c'est dans le but d'accuser le même suspect. Le SPAL n'a jamais voulu confirmer cette information-là précise, mais bien sûr, ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils continuaient à travailler très fort sur le cas de Jannick. Dans le même article, on apprenait que les enquêteurs voulaient aussi pouvoir conserver plus longtemps les objets qui avaient été saisis chez le suspect, soit pour 60 jours. Évidemment, on ne sait pas ce qui avait été saisi exactement, on peut spéculer longtemps, mais il semble que ces objets-là auraient pu devenir des pièces à conviction et ils auraient été analysés en laboratoire de façon extrêmement importante. Malheureusement, c'était en 2015, et à ce jour, personne n'a encore été accusé du meurtre de Jannick. Donc on en conclut que le DPCP n'a pas porté d'accusation cette année-là non plus. Ce qui porte à croire que les policiers ont juste pas ce qu'il faut pour régler le dossier, pour le moment du moins. Le cas de Jannick, c'est le seul homicide non résolu dans les 14 dernières années dans les dossiers du SPAL. Le chef de police, Denis Desroches, qui a quitté en 2017, avait d'ailleurs mentionné que c'était un dossier qui l'avait particulièrement touché, entre autres parce qu'il n'avait jamais été terminé. En date d'aujourd'hui, en 2021, personne n'a encore été accusé du meurtre de Jannick. La police n'a jamais vraiment eu d'autres suspects que celui qui a été arrêté en 2014. Du moins, pas qu'on sache. Mais bien sûr, en tant que citoyen, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans une enquête comme celle-là. Et c'est normal. La police ne peut pas tout nous dire. Ils doivent se garder des informations pour plein de raisons. Entre autres pour bâtir un dossier solide, pour ne pas avertir les possibles suspects qui sont dans leur mire. Mais aussi pour faire le tri des informations qu'ils reçoivent. S'ils peuvent vérifier si quelqu'un est réellement lié à un crime en lui posant des questions auxquelles seul le véritable coupable ou ceux à qui il aurait pu parler peuvent répondre, ça les aide à comprendre qui est réellement impliqué dans une affaire. Moi, je pense que le suspect qui a arrêté en 2014 est bien celui qui a appelé le 911 et que la police est convaincue que c'est lui pour des raisons qu'on connaît juste pas. Je pense que le fait que tout ça ait commencé avec une agression sexuelle donne un motif aussi à ce crime violent-là. Surtout que si c'est pas ça le motif, on dirait que je sais juste pas ça pourrait être quoi d'autre. Surtout si, comme on le pense, c'est un parfait inconnu pour Jannick. Je me questionne à savoir si le suspect est dans la mire des policiers aussi parce qu'il a des antécédents. Je veux dire, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un commettrait la première infraction de sa vie et que ce serait d'attaquer une jeune inconnue à coups de barre de métal. C'est juste tellement intense. J'aimais l'idée que ça puisse être Yves Roy aussi, mais comme je disais plus tôt, je pense que si la police l'a pas connecté à Jannick, ça doit être parce qu'ils ont autre chose ou parce qu'ils sont capables de déterminer que c'est impossible. Est-ce que le suspect est le même que la femme avait vu au même endroit le même jour? Est-ce qu'elle l'a identifié et ça donne encore plus de raisons de croire qu'il est lié au meurtre? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
C'est sûr qu'à la lumière de tout ce que tu nous as montré, tous les faits que tu nous as sortis, c'est un peu dur de voir un autre suspect que celui qui avait déjà dans la mire depuis le début. C'est juste dommage qu'il y ait eu beaucoup de petites erreurs qui ont, dans le fond, affecté l'issue de tout... de toute l'enquête, puis que dans le fond, celle-ci n'est pas encore close.
J'ai écouté tellement d'histoires de true crime dans lesquelles on sait qui a commis le crime, mais on n'est juste pas capable de le prouver, et ça me tue. C'est tellement triste pour Jannick, ça me fait mal pour sa famille, et pour nous en tant que citoyens, on a envie de se dire que les dossiers de ce genre-là finissent par être bouclés. Moi, je pense sincèrement que le dossier peut encore se régler. Il est certain que des gens savent des choses. Je suis certaine que le suspect a parlé à quelqu'un, s'est confié, a avoué à quelqu'un, et que cette personne-là a le pouvoir de faire avancer le dossier de Jannick Dalcourt. Quelqu'un a la chance, quelque part, de parler pour permettre à la famille de Jannick de retrouver un peu de paix dans toute cette horreur-là. Je pense aussi que la police de Longueuil, malgré son manque d'expérience et des erreurs qui ont pu être commises durant l'enquête, veut réellement pouvoir boucler le dossier pour Jannick et sa famille. Le 21 octobre 2015, un an exactement après la mort de Jannick, il y a une plaque commémorative qui a été installée sur la piste cyclable à l'endroit de son meurtre. Sa famille, ses amis, la mairesse de Longueuil et plein de gens qui avaient suivi l'affaire s'étaient rassemblés en son honneur. Le même soir, une veillée à la chandelle avait lieu pour Jannick. La mairesse de Longueuil, qui était sur place, avait expliqué que, évidemment, la plaque servait à se souvenir de ce qui était arrivé à Jannick, mais elle servait aussi à avoir une pensée pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. Pour le premier épisode d'Histoire sordide, merci tellement d'avoir été avec nous et d'avoir écouté l'histoire de Jannick Dalcourt. On se retrouve la semaine prochaine. Avant de conclure, je veux vous parler rapidement d'un organisme qui me tient à cœur. Ça s'appelle Meurtre et disparition irrésolue du Québec, et ce qu'ils font pour les familles des victimes, c'est tout simplement fabuleux. Ils s'assurent qu'on continue à parler des dossiers qui ne sont pas réglés, et je vous invite à aller voir leur site, c'est vraiment une belle organisation. On va mettre un lien sur la page de l'épisode. Si vous avez des informations à propos du meurtre de Jannick, aussi petite soit-elle, vous pouvez contacter les enquêteurs du service de police de l'agglomération de Longueuil au 450-463-7211.